que je suis vraiment content d'être avec vous autres. C'est le fun. Évidemment, une prochaine fois, ça va être intéressant de revenir et qu'on soit pas tous masqués comme ça. Éventuellement, ça va venir. Je suis content d'être avec vous. Comme Joël a mentionné, j'ai été plusieurs années là, en formation ici. On est à l'église de Bécancour, juste l'autre bord du pont, qui était à l'époque le projet d'implantation de l'église de Trois-Rivières, qui est maintenant une église établie. Je suis en fin de parcours pour rejoindre l'équipe pastorale là-bas. Donc, je viens vous enseigner, c'est tout qu'un privilège en plus de vous enseigner sur un sujet que j'ai particulièrement à cœur. Donc, si on peut afficher le PowerPoint, là, ça serait parfait, sur le mouvement de prière 24-7. Avant de commencer, j'aimerais ça vous lire un texte. Un texte qui va introduire notre sujet, qui va nous placer dans un contexte particulier. Ça se passe au Québec. C'est un pasteur de l'époque qui décrit une situation où lui a été invité à enseigner dans une église un mercredi soir. Et là, ce qu'il décrit, c'est son arrivée à l'église puis son entretien avec le pasteur. À son arrivée à l'église, ça se passe dans le coin de Sherbrooke. J'ai demandé au pasteur combien de temps je devais parler. Il m'a répondu, ces gens ont faim de la parole. Je ne parle jamais moins d'une heure. En tant que visiteur, vous devriez parler plus longtemps, bien sûr. Je suis arrivé à 19h30 environ. 85 personnes étaient présentes et ont chanté avec révérence pendant environ une demi-heure, des hymnes et des cantiques, certains ayant été composés récemment. Peu après 20h, j'ai commencé à prêcher. J'ai terminé tout juste avant 21h30. Je vous promets que ce ne sera pas aussi long. Le pasteur a dit qu'il s'agissait d'une merveilleuse occasion pour poser des questions sur ce qu'enseigne la Bible. J'ai répondu aux questions jusqu'à 22 heures. Puis, certains ont partagé des requêtes de prières qui concernaient presque toutes des conversions ou la croissance spirituelle de personnes auxquelles ces croyants partageaient l'Évangile. Nous nous sommes agenouillés pour commencer à prier vers 22h30. J'ai été le premier à partir entre 00h30 et 1h du matin, car je devais encore me préparer quelque peu pour le cours que je donnais le lendemain matin à 8h. Le pasteur m'a assuré qu'il s'agissait d'un mercredi soir tout à fait normal. On a là une situation exceptionnelle. C'est Don Carson qui décrit ça. Quand il a écrit la biographie de son père qui était pasteur au Québec. Lui-même, Don Carson, a été pasteur au Québec plusieurs années avant d'enseigner dans un séminaire de formation aux États-Unis. Ce qu'il décrit là se passe dans le coin de Sherbrooke aux alentours de l'année 1976. En plein milieu d'une phase clé, d'une phase névralgique du mouvement évangélique au Québec. Le grand réveil évangélique du Québec. En 1972, on comptait en tout et partout au Québec, peu importe les allégeances, peu importe les dénominations, on comptait en tout et partout 40 petites églises évangéliques. Toutes pauvres en ressources, incapables de soutenir un pasteur pour le salarier et le rémunérer à temps plein. On est en 1972. 8 ans plus tard, en 1980, on comptait au Québec plus de 400 églises évangéliques. En 1990, plus de 30 000 chrétiens évangéliques. Donc, en 8 ans, de 72 à 80, on est passé de 40 églises évangéliques à plus de 400. Le grand réveil évangélique québécois était né. En 8 ans, l'Église a explosé. On comptait entre 2000 et 3000 personnes qui devenaient chrétiens chaque année pendant ces années-là. C'était une phase inégalée dans l'histoire du Québec. Dieu venait de visiter puissamment tout le Québec pour ramener de nombreuses personnes à Jésus-Christ pour en faire de ses disciples. Évidemment, c'est une phase exceptionnelle. Puis j'ai eu le privilège de m'entretenir avec un des premiers pasteurs qui est issu de ce réveil-là. Évidemment, plus il y avait d'églises, plus ça prenait des pasteurs à former pour diriger ces églises-là, pour administrer l'église, pour enseigner la Bible, pour diriger tout le monde dans le grand mandat qui nous avait été donné d'annoncer l'Évangile, de former des disciples. Lui est un de ces pasteurs-là qui est issu du mouvement de réveil québécois. Euh, Il a commencé à être pasteur en 1975. Ce que je vous ai décrit là est de 1976. Donc, et quand je m'entretenais avec lui, évidemment, c'était incroyable de voir tout ce que lui avait vécu. Mais il y a une phrase clé qu'il a dit qui m'a particulièrement accroché. Lui, il me disait, à chaque année, aux alentours du mois d'avril, on se réunissait en Ontario avec tous les pasteurs baptistes du Canada pour une espèce de colloque, une espèce de conférence là, où on passait en revue toute l'action de Dieu dans les différentes provinces à travers l'année. Et chaque année, ça ne manquait pas. Des pasteurs venaient me voir, des leaders d'église venaient me voir, des membres impliqués venaient me voir, anglophones de l'Ontario, et ils me répétaient, on prie à chaque jour, on prie à chaque semaine pour un réveil au Québec depuis des années. Et lui en vivait les fruits. Ce qu'on a vécu, voilà plusieurs années, a commencé dans la prière, a commencé dans la prière persévérante, déterminée de frères et sœurs de l'Ontario qui ont plaidé devant Dieu pour un réveil au Québec, et ça s'est produit. Le texte qu'on va regarder ce matin, sans qu'on s'en rende compte nécessairement, et plusieurs le connaissent, ça va être la première partie du Notre Père, est fondamentalement lié à une prière de réveil, où Jésus nous invite à joindre devant Dieu des efforts collectifs pour demander à Dieu un réveil dans notre entourage. Donc, on peut tourner ensemble dans Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. On va donc se concentrer sur la première partie du Notre Père. Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Et là, Jésus, dans ce texte-là, Jésus parle depuis un certain bout de temps, rendu là. C'est le sermon sur la montagne, un enseignement que Jésus a donné. Jésus, sur une montagne, enseigne à des gens qui l'ont vu agir, qui l'ont vu guérir des gens, qui l'ont vu faire des miracles. Et là, il les enseigne sur différents sujets. Un de ces sujets-là va être la prière. Et il glisse tranquillement vers le sujet de la prière, en commençant en disant, en illustrant, en fait, si on veut, deux façons de prier qui sont à proscrire, qui sont à tasser. Priez pas comme ça. Premièrement, priez pas pour être remarqué des gens, hein, tu sais, à voix haute devant tout le monde, comme pour être remarqué des autres, comme pour vous remonter, tu sais. Mais non plus, priez pas comme les autres peuples. Qui pensent qu'à force de prière, à force de donner, à force d'efforts de prière, ils vont recevoir de Dieu. Qu'à force de plaider devant Dieu, là, le ballon va finir par tourner vers eux, puis ils vont bénéficier de quelque chose de Dieu, ils vont avoir un retour, t'sais, comme s'il y avait une relation de donnant-donnant. Priez pas comme ça. T'sais. Et là, Jésus va dire, bon, voici comment vous devriez prier. T'sais. Et là, il va enseigner à ses disciples comment prier. Il commence. Notre Père. Déjà, il appelle Dieu papa. À l'époque, c'était assez rare, même extrêmement rare, de voir les coutumes juives désigner Dieu avec le titre papa. Ça arrivait, mais c'est rare. Là. C'est des cas très exceptionnels. Habituellement, les Juifs avaient beaucoup plus des titres élogieux, des titres presque royaux pour Dieu. Tu sais, Seigneur des seigneurs, Dieu de la terre, tu sais, des titres très élevés, puis c'est super. Mais c'était des titres aussi très distants, où Dieu est ce grand maître qui chapeaute toute la création, tout l'univers, tu sais, qui la dirige. Tu sais. Jésus va y aller d'un autre angle. Appelez-le papa. Puis pas juste papa, notre papa. Tu sais. Appelez-le père. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Jésus nous invite à considérer Dieu comme une personnalité paternelle, comme un père. Tu sais. Avec quelqu'un qui est enclin à répondre favorablement à nos demandes, à nos besoins, qui est enclin à nous accompagner puis à être impliqué pour marcher avec nous dans nos défis, pour dénouer les nœuds avec nous, pour être impliqué positivement puis favorablement dans notre vie, puis pour recevoir nos requêtes, recevoir nos demandes favorablement. Jésus présente Dieu comme ça. Quand je préparais cet enseignement-là, c'était un samedi matin. Moi, je travaille la semaine, fait que si j'ai à préparer des enseignements bibliques comme ça, c'est les soirs et les fins de semaine. Fait que le temps est précieux parce qu'il est court, puis j'ai des jeunes enfants. On est samedi matin, j'étais à la table de la cuisine, puis je prépare cet enseignement-là. Puis là, inévitablement, ça arrive à tous les samedis matin. Là, les enfants montent. Puis ils ont faim. Puis là, ils me demandent ce qu'ils appellent une collation d'avant-déjeuner. Ça, dans une famille normale, ça s'appelle un déjeuner. Mais eux autres, mes enfants appellent ça une collation d'avant-déjeuner. C'est un peu comme l'aliment qu'on n'a pas encore déjeuné, papa, mais ça va être non officiel. On va déjeuner après, pareil, là. Mais ça va être la barre tente devant la TV. Hein? Ça va être ces petits gugus-là qui mangent en écoutant leur émission samedi matin. T'sais. Fait que là, j'ai beau être concentré, j'ai beau avoir un temps réduit pour préparer un enseignement biblique, s'ils viennent me voir avec leurs gros yeux, habillés en pyjama, les cheveux tout croches, puis me demandent leur collation d'avant-déjeuner, moi, je suis leur père. Mon cœur est enclin à leur donner. Il arrivera ce qui arrivera. Je vais leur donner leur barre tente. Ça va me faire plaisir. Face à leur demande, mon cœur est enclin à répondre favorablement, un peu, peu importe le reste. Ce qui fait que si vous trouvez que je manque de préparation ce matin, vous savez qui allez voir? Ils sont juste là, là, juste en avant. Notre Père. Dieu se présente aux disciples de Jésus comme un Père, comme quelqu'un qui est enclin à recevoir favorablement nos demandes, nos difficultés, nos besoins. Et pas juste comme mon Père, comme le Père, mais comme notre Père. Jésus y inclut deux concepts fondamentaux dans les premiers mots du Notre Père. Notre Père. Dieu comme une personnalité paternelle, Dieu comme un père de famille qui veut prendre soin, qui veut accompagner, mais nous tous, comme des frères et des sœurs, notre, celui qu'on est appelé à approcher comme un groupe de frères et sœurs ensemble. Quand Jésus souligne le nôtre, il souligne aussi l'aspect familial de l'Église, l'aspect familial des disciples qui vont être appelés à se considérer comme des frères et des sœurs. Il y a plusieurs années, j'ai un jeune cousin qui est décédé du cancer. Il est décédé à 18 ans, après un combat de plusieurs années contre le cancer. Et il y a un de ses oncles-là dans notre famille que j'ai pas beaucoup connu, situation conflictuelle qui l'ont amené à vouloir s'éloigner de la famille. T'sais. Puis à l'époque, ça avait causé quand même un certain nombre de tensions. T'sais. Quand Étienne est décédé, tout le monde s'est réuni au salon funéraire. Et il s'est présenté pour aller porter honneur à Étienne. De tous les endroits, pensez-y, là, de tous les endroits où on aurait pu le voir se présenter, t'sais. On s'entend que dans un salon funéraire, c'est pas la place Jojo cool que c'est le fun d'aller. C'est une place qui est déjà difficile puis confrontante où se présenter, mais il s'est présenté pour aller porter honneur à Étienne une dernière fois. T'sais. Pourquoi il a fait ça? Le lien familial qui l'unissait à son neveu était plus fort que le malaise, que la gêne de se présenter ou que le conflit qui aurait pu perdurer à travers les années. Il s'est présenté, il est allé porter honneur à Étienne une dernière fois. Ce même lien-là, c'est le lien familial. Tu sais, quand on dit la famille, c'est la famille. Même quand ça va mal, la famille, ça va être la famille. T'sais. Puis on va continuer d'avancer ensemble. C'est ce même lien-là que Jésus nous dit, on est appelés ensemble à adopter ce lien-là les uns envers les autres, particulièrement en tant qu'Église locale, quand on chemine ensemble. Est-ce que les autres chrétiens de votre entourage, de votre groupe maison, de votre groupe vie, de votre assemblée, vous les considérez comme des frères et des sœurs au point où les irritants, les points de tension seront pas des raisons pour couper les relations, mais vont être des raisons pour les dénouer, les marcher ensemble, puis les faire fructifier, puis les faire grandir ensemble. Juste avant de présenter la prière comme le Notre Père, ce lien familial-là fort qui nous unit à Dieu comme Père et les uns aux autres comme des frères et des sœurs. Jésus, au verset 7, a décrit comment ne pas prier. Priez pas comme les autres peuples qui pensent qu'à force de prier, à force de donner, à force de pitcher à Dieu des demandes puis de se discipliner, ben là, il va peut-être avoir un retour un moment donné, tu sais. Puis là, peut-être que Dieu, il va donner. Priez pas dans une relation de donnant-donnant avec Dieu. C'est ce que Jésus nous dit. Priez pas en pensant qu'à force de donner, vous allez recevoir. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne dans un lien familial. Dans un lien familial où lui se présente comme votre père et nous tous comme des frères et des sœurs. Il y a deux grands types de relations dans la vie. Donnant-donnant et la famille. dans la famille, on inclut tout ce qui est des amis proches avec qui on veut cheminer, les frères et sœurs d'une même église, etc. T'sais. Plusieurs ont un emploi ici, certains sont retraités, mais d'une façon ou d'une autre, on a tous connu c'est quoi une relation de travail avec un employeur. On a beau bien s'entendre avec... Moi, je m'entends super bien avec mon boss, c'est une des relations privilégiées, puis je suis content de ça. Mais ça reste mon boss. Qu'est-ce qui se passe si du jour au lendemain, l'organisation pour laquelle vous travaillez n'a plus les revenus pour vous rémunérer? Qu'est-ce qui se passe? Vous, vous trouvez un autre emploi. La relation de donnant-donnant, elle est coupée. Certains ont un loyer, sont en appartement ici. Qu'est-ce qui se passe si vous entendez super bien avec votre propriétaire, mais du jour au lendemain, vous n'êtes plus en mesure de payer le loyer? Bien, éventuellement, la relation va être coupée. Vous ne pouvez pas donner ce qu'il faut pour avoir un logis. Il va falloir trouver une autre solution ailleurs. L'employeur a plus ce qu'il faut pour vous rémunérer. Bien, vous allez vous trouver un autre emploi. La relation, elle est donnant-donnant. Si un des deux cesse de donner, le lien se coupe, la relation tombe. Et à l'inverse de ça, la relation de famille, elle dit, on va continuer à cheminer ensemble parce qu'il y a un lien familial fort qui nous unit. Puis, il n'y a pas de question de donnant-donnant, là. Il y a une question de famille, où si on a été adopté comme les enfants de Dieu, comme père, ce lien-là reste, ce lien-là dure malgré les circonstances qui peuvent être difficiles. Qu'est-ce qui qualifie nos relations les uns envers les autres présentement? Si vous gardez ça pour vous-même comme une introspection, face aux gens de votre église, les gens de votre groupe vie, quelle est la posture qui vous qualifie présentement? Et là, Jésus va continuer. Notre Père qui est aux cieux. J'ai jamais reçu de lettre du département de la justice. Je souhaite pas que ça arrive non plus. Mais si je recevais ça, je comprendrais qu'on me décrit pas juste un bâtiment. T'sais. On me décrit pas le parc au coin de la rue, là. Le département de la justice, c'est une bâtisse dans la vie. Mais c'est aussi une autorité. Si je reçois une lettre qui vient du bureau du premier ministre, je m'imagine pas que ça a rapport avec des fournitures de bureau. C'est une autorité, c'est un poids décisionnel fort. Quand Jésus qualifie, vous l'adressez comme notre Père qui est aux cieux, il fait exactement la même chose. Il décrit un lieu, mais il décrit en même temps une position de pouvoir où Dieu est cette personne-là qui a pouvoir décisionnel sur chacune des facettes de notre vie, individuelle, commune, provinciale, fédérale et mondiale. Ce Dieu-là a même mise sur l'ensemble des mouvements sociaux, sur l'ensemble des choses qui se passent dans le monde. Il n'y a rien qui le surprend, il n'a jamais pris de cours. Donc, quand on l'adresse comme père, c'est à un père affectueux qui veut cheminer avec nous, qui est enclin à orienter nos besoins, nos décisions de vie vers le mieux, vers ce qui est mieux pour nous, et en même temps, celui qui a tout pouvoir pour que ça se réalise. Celui qui a tout pouvoir pour que ça devienne réalité. Et là, ça, c'est une espèce d'introduction que Jésus y fait. Hein? Présentez vos demandes à notre Père qui est aux cieux. Ça part très bien. C'est très prometteur. Très positif. Il va présenter différentes demandes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est les trois demandes qu'on va considérer pour aujourd'hui. Que ton nom soit sanctifié, ça pourrait aussi être dit de la façon suivante, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que toute ta personne, dans ce qui la qualifie de plus fondamental, c'est la sainteté de Dieu, on voit souvent que c'est comme le noyau de sa personne, t'sais. Que toute ta personne, dans ce qu'elle est de plus fondamental et dans ce qu'elle est de plus Dieu, soit respecté. Soit respecté de qui? De ceux, évidemment, qui entendent l'enseignement de Jésus, là. Ça, c'est certain. Mais eux ont déjà comme fait un pas ou deux, là. Eux se sont déjà, dans une certaine mesure, engagés à aider les disciples et à le suivre. Au point, en tout cas, de l'écouter et de le suivre dans ses discours. T'sais. Mais Jésus prie aussi en vue de d'autres qui vont adopter la même posture. Une posture où on va reconnaître que Dieu est cette personne-là qui mérite d'être la priorité de ma vie individuelle, de ma vie collective aussi de groupe. Si quelqu'un vient vous voir du jour au lendemain, quelqu'un que vous connaissez, un ami qui n'est pas particulièrement intéressé au christianisme, puis qui vous dit « Écoute, mes réflexions ont avancé, puis qu'on dirait qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui est différent. On dirait que j'ai le désir de respecter la sainteté de Dieu. J'aurais le désir d'accorder à Dieu tout le respect et l'honneur qui lui est dû. » Ça ne prend pas beaucoup d'herméneutique avancée pour déduire que cette personne-là est encline à devenir un disciple de Jésus. Hein? Il n'y a pas beaucoup de nuances là. Jésus prie pour ça. Jésus prie pour ça, pour que les gens de notre entourage, de Trois-Rivières, du Québec, désirent cette réalité-là pour leur vie. Que ton règne vienne. Que... Jusqu'ici, là, dans les traditions juives, dans l'Ancien Testament, que ton règne vienne, ben, c'est évident. T'sais. Premièrement, Dieu règne sur son peuple. Dieu règne même dans certaines limites là, sur un pays, hein, t'sais, sur Israël. Mais là, Jésus va pousser la note un peu plus loin. Puis ça se clarifie après ça dans le Nouveau Testament. Jésus va revenir à sa seconde venue. Dieu va venir vider de tout le mal qui l'habite, de tout le chaos qui l'habite, ce monde, et va être roi et maître sur ce monde pour toujours. T'sais, plus de pandémie, plus de chaos, plus de conflits, plus de guerre, plus de difficultés, plus de tiraillements intérieurs, plus de problèmes de santé, peu importe. Il va être roi et maître pour toujours. Puis ce qui est fun, c'est que ses enfants, ceux qui suivent son fils comme des disciples, vont avoir le privilège d'habiter dans ce monde-là pour toujours. C'est incroyable. C'est sûr que Jésus a cette perspective-là quand il dit que ton règne vienne, que nos cœurs soient ancrés dans ce monde à venir auquel on est appelé à espérer, qui va être ce monde revisité par Dieu où tout le mal n'existera pas, où on va être libéré des difficultés et des souffrances. Mais Jésus, juste après, là on est au chapitre 6, verset 9-10, au verset 24. Il est dans le même discours, là, dans le même filon d'idées, si on veut, là, juste plus loin dans son discours. Jésus va dire, nul ne peut servir deux maîtres. T'sais, on ne peut pas servir l'argent et Dieu. C'est un ou l'autre. Jésus, quand il emploie cette image-là, nul ne peut servir deux maîtres, il présente Dieu comme un des deux maîtres possibles qui peut régner dans la vie de quelqu'un. Là, on n'est plus dans régner sur un pays, régner sur le monde, régner sur un peuple. On n'est plus là, là. Là, on est sur régner sur une vie individuelle. Jésus va présenter Dieu comme celui qui aussi veut régner dans mes priorités, mes aspirations, mes projets, mes désirs, mes décisions, mes réactions, sur toute ma vie intérieure, sur tous mes liens extérieurs. Dieu veut être cette personne-là qui est roi et maître, qui règne sur ma personne. Donc, quand Jésus prie « Que ton règne vienne », Jésus prie aussi avec la vision de voir différentes personnes faire de Dieu celui qui va régner dans leur vie intérieure, dans leurs priorités, dans leurs projets, dans leurs aspirations. Devenir des disciples de son Fils. Des gens qui vont décider de faire de Dieu la priorité de leur vie. Voyez-vous avec quelle perspective Jésus y prie? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis là, évidemment, on va résumer là, quelle est la volonté de Dieu dans la Bible. Hein? Il y a comme des livres décrits là-dessus, là, fait qu'on va faire court. Mais ce qui est bien, c'est qu'en voulant faire court, le Nouveau Testament, il résume assez bien. T'sais. On n'a pas besoin d'être exhaustif pour comprendre. Si on a à résumer, là, c'est quoi la volonté de Dieu pour chacune de nos vies? Là? Ça se comprend assez bien avec certains textes du Nouveau Testament quand Jésus, par exemple, donne les deux plus grands commandements. C'est quoi les deux plus grands commandements, Jésus? Aime Dieu de tout ton être, aime ton prochain comme toi-même. Puis juste avant de quitter la terre pour revenir vers le Père, l'ascension de Jésus, là, il va laisser tous ses disciples avec un grand commandement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai appris. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, par amour pour Dieu, puis par amour pour ce Père qui désire et qui mérite le règne sur chacune des vies de ce monde, allez annoncer l'Évangile. aller annoncer ce message où Dieu est appelé à reprendre le plein centre de la vie de chacun de nous. Et par amour pour les autres autour de vous, présentez l'Évangile comme ce message libérateur qui va donner accès à tout le monde, à un Père aimant, enclin à aider, à cheminer et à accorder favorablement tout ce qu'on lui demande. Que ta volonté soit faite. Que de partout, tes disciples annoncent l'Évangile, aiment leur prochain comme eux-mêmes, t'aiment toi profondément et annoncent ce message où chacun va être invité à joindre la grande famille de Dieu puis à avoir Dieu comme Père. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel, ce qui est à comprendre là, c'est qu'au même titre que dans le ciel, dans les cieux, c'est Dieu est incontesté comme cet être incroyable à qui tout est dû, qui a tout mérite. T'sais, les anges ne s'ostinent pas longtemps avec Dieu. Il y a une espèce de consensus hein, au ciel où tout est accordé à Dieu, tout le bénéfice, tout le bien, tout le bon est accordé à Dieu. Mais que cette réalité-là soit présente sur le ciel, mais sur la terre également. Que de nombreuses personnes se tournent vers Dieu pour reconnaître sa toute puissance, sa toute grandeur, sa toute bonté dans leur vie et dans le monde qui les entoure. Maintenant, prenons un pas de recul ensemble. Quand Jésus dit ça, c'est quand même Dieu sous forme humaine au milieu d'autres êtres humains. C'est significatif dans l'histoire du monde, c'est pas arrivé 32 fois là. Jésus, Dieu lui-même, sur terre, en présence d'autres êtres humains, prie pour un moment où Dieu va continuer à visiter le monde, à visiter les régions du monde, à visiter le Québec, à visiter Trois-Rivières, à visiter la Mauricie, le centre du Québec, pour continuer cette œuvre-là de ramener plusieurs personnes vers son Fils pour en faire des disciples. Jésus a lui-même entrevoit un moment où cet effort-là de prière, avec cette perspective-là de voir Dieu ramener plusieurs personnes à lui, va devoir se continuer au-delà de sa propre vie. Puis c'est pas trompé, c'est exactement ce qu'il a donné comme mandat à ses disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, allez-y, le bâton est passé. Continuez ce grand mouvement qui a maintenant débuté. Puis je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais vous accompagner, je vais être avec vous, je vais vous devancer même. Puis je vais faire de chacun de vos journées, de chacune de vos semaines, des moments où vous allez avoir des fenêtres pour faire du bien, pour présenter l'Évangile, mais aussi pour prendre part à cette prière-là, pour me joindre à prier pour les gens de votre communauté, pour que plusieurs connaissent cet éveil spirituel-là. Tu sais, quand on va dire un réveil spirituel, là, il y en a plusieurs dans l'histoire du monde, aux États-Unis, en Angleterre et au Québec. C'est cette espèce d'éveil spirituel-là collectif que plusieurs personnes vivent, qui se prolonge sur une longue durée de temps, des fois des mois, des fois des années, comme ça a été le cas au Québec, et où plusieurs personnes deviennent des disciples de Jésus en masse, 2 à 3 000 par année pendant 8 ans au Québec. C'est ça un réveil spirituel. Et Jésus, quand il nous montre à prier, Jésus nous invite à intégrer dans notre vie de prière la prière persévérante pour que Dieu continue ce mouvement de l'Évangile et réveille, continue des réveils, provoque ces éveils spirituels-là pour conduire de nombreuses personnes à devenir les disciples de son Fils Jésus. Il y a un lien fort avec le mouvement 24/7. Puis évidemment, il y a de ça que je veux vous parler aussi. Mais je voulais vous montrer évidemment comment ça s'imbriquait, même dans le désir de Jésus pour la vie de chacun de nous. Le mouvement 24/7, c'est une idée qui est née de notre famille d'Église il y a quelques années. Où c'est 4 engagements. 4 engagements. Et quand on dit engagement, tu sais, je vous montrais tantôt, il y a un site web. L'idée, c'est même de s'inscrire. T'sais. 4 engagements. Prier 1 minute par jour pour une requête ciblée. Prier 1 heure par semaine pour un ensemble de requêtes qui vous sont données. Là, on a un document. Prier pendant 1 rencontre par mois. Ça a lieu sur Zoom. Et prier 1 journée par année. 1 minute par jour pour une requête ciblée. Là, il y en a une liste sur le site web. Si vous inscrivez, c'est accessible. Moi, je prie à tous les jours, 1 minute, pour l'implantation d'églises au Québec. Je prie pour que d'ici 2030, on puisse voir 35 implantations d'églises partout au Québec qui annoncent l'Évangile, qui forment des disciples. Je peux vous dire que j'ai hâte en 2030 pour voir comment Dieu, dans notre famille d'église puis dans d'autres familles d'église aussi, va avoir mis ça en place pour être capable de compter le nombre de projets d'implantation puis de voir comment Dieu est à l'œuvre pour annoncer l'Évangile partout au Québec. 1 heure par semaine pour un ensemble de requêtes. Puis un petit document PDF, il y en a 24. 24 requêtes qui ciblent tant les familles, les leaderships d'église, les gens qui sont pas chrétiens au Québec. Ces 24 requêtes, les femmes dans le leadership, les hommes dans le leadership, l'implantation d'église, la formation de disciples, etc. Il y a 24 de ces requêtes-là. Et là, sur le site web, quand on s'inscrit, on sélectionne 1 heure dans une semaine. Dans une semaine, il y a combien d'heures? 168. Certains sont à la retraite. D'autres, c'est plus des oiseaux de nuit. D'autres, c'est des lève-tôt. D'autres, ils ont des enfants. Ils ont les soirs de disponibles, des fois, une heure de dîner. L'idée, c'est qu'au moment où on s'inscrit, on dit, moi, je réserve cette heure-là dans la semaine. Et à chaque semaine, cette heure-là, je vais prier pour les 24 requêtes qui sont données. Là. Intentionnellement, de façon persévérante, toutes les semaines. Chaque semaine, je vais prier 1 heure pour un réveil au Québec. Chaque semaine, on va avoir au moins une personne qui prie chaque heure du jour et de la nuit pour un réveil spirituel au Québec. On en veut évidemment plusieurs par heure. Présentement, là, je vous l'ai dit, il y a 168 heures dans une semaine. Combien on est, vous pensez? On est 260. Il y a actuellement plus d'une personne à toutes les heures qui prie. Présentement, il y a une personne qui prie pour un réveil spirituel au Québec. 24 fêtes, c'est aussi une rencontre par mois. L'église de Bécancourt, l'église de laquelle je fais partie, a eu à cœur de débuter ces rencontres-là. C'est des rencontres régionales de prière. Fait que là, c'est sur Zoom, 1 jeudi soir par mois. On garde ça simple, là, on a 2 grandes régions, tu sais, Shawinigan, Victo, là, c'est quasiment 2 heures. On fait ça sur Zoom, pandémie ou pas. On vous invite à prendre part à une soirée de prière à tous les mois, de 19h30 à 21h, 1 jeudi soir par mois. Et imaginez-vous ça, là. Il y a 6 églises de notre famille d'églises en Mauricie-Centre-du-Québec. C'est Shawinigan, Trois-Rivières, Bécancour, Plessisville, Victoriaville puis Drummondville. Actuellement, toutes les églises de notre famille d'églises ont accepté de dire « Oui, je vais en parler. Oui, je vais promouvoir ces rencontres mensuelles-là. » Puis là, ça fait qu'on va avoir les 6 églises d'une même famille d'églises qui prient ensemble pour les besoins de notre région puis pour les besoins du Québec. Je vous laisse vous imaginer ce que ça peut donner, ça, si on le fait de façon persévérante pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, qu'on continue à le faire. On a des moyens technologiques pour le faire. Qu'est-ce que ça donne si on joint de la persévérance à ça? Qu'est-ce que ça peut donner dans notre vie individuelle, dans notre vie régionale, dans les liens entre les églises? Comment Dieu peut utiliser la prière pour provoquer un réveil dans notre région, dans notre province, si on prie ensemble? Ça fait quelques semaines qu'on a tendu des perches dans ces 6 églises-là pour les inviter à prendre part à 24/7. Fait que je peux vous dire que déjà, Dieu a commencé des choses. Cette semaine, je reçois un texto de l'église de Drummondville. Je vais vous en parler après, une journée de parrainée, là, une journée de jeûne et prière. À la journée de jeûne et prière, juste à l'église de Drummondville, ils vont être 25. 25 à se réunir pour prier puis jeûner pour un réveil au Québec. Ça vous tente-tu de prendre part à ça? La première rencontre mensuelle qu'on a eue en mars, j'en avais même pas parlé à l'église ici. Là, l'enseignement il était prévu pour aujourd'hui. Fait que t'as même pas toutes les églises qui étaient au courant. On était 16. 16 personnes qui intentionnellement prient pour un réveil chaque mois au Québec. Puis imaginez-vous dans 5 ans combien qu'on peut être. Si chacun, on saisit là, l'importance que Dieu accorde à la prière persévérante pour provoquer un réveil au Québec. Vous imaginez-vous dans quelques années où on peut être rendu? Puis finalement, 24-7, c'est aussi une journée par année de jeûne et prière. J'en ai parlé un peu. Ça a lieu le 1er mai cette année. Une journée qu'on consacre au jeûne et à la prière. Je laisserai Joël, Benoît, André, les autres pasteurs également, tu sais, vous expliquer c'est quoi le lien des fois entre le jeûne et la prière. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours clair. Ils vont être capables de vous en parler. Il y a un lien clair entre le jeûne et la prière. Ça a lieu le 1er mai. C'est sur le web, c'est sur Web Diffusion. Puis il y a un gros volet de cette rencontre-là, évidemment, qui est dédiée à la prière. Puis on va avoir le privilège de prier en région, la Mauricie, les Centres du Québec, les 6 églises ensemble. Une journée par année, on se la réserve. Là, ça a lieu le 1er mai. Les autres journées, les autres années, ça dépend. Là, c'est toujours un peu aux alentours du mois de mai. Si vous voulez vous inscrire à 24-7, là, le site web, il est là, je vais l'afficher au bas tantôt. C'est juste en haut, c'est marqué « Joindre le mouvement ». C'est votre nom, votre courriel, votre requête de prière de chaque jour là, pendant une minute, votre heure de prière à toutes les semaines. T'sais, vous rentrez ça, là. Puis vous allez voir, vous allez pouvoir voir toutes les autres qui prient présentement partout au Québec pour un réveil. Vous allez pouvoir voir combien qu'on est, on est 260. Imaginez-vous si dans 2-3 ans, là, on peut être 504. On prie actuellement pour 504. 504 intercesseurs, 504 marathoniens de la prière qui vont réserver une heure par semaine pour se battre en prière. Puis je vous laisse vous imaginer, tu sais, je suis conscient que, si j'en ai moi-même là, des jeunes enfants, là, je suis conscient, puis je travaille, puis je suis conscient que la vie est occupée. Je suis conscient que, probablement que dans le cœur de plusieurs d'entre vous, vous aimeriez ça vous impliquer davantage. Vous aimeriez ça prendre part à tel ou tel projet. Puis là, le temps vous manque ou l'énergie vous manque. Puis les circonstances sont pas toujours évidentes. Il y a des contraintes de temps avec les enfants. Puis tu veux pas non plus, tu sais, comme négliger tes enfants pour t'impliquer à l'église. Là, quel mauvais message, tu sais. Mais là, il y a une opportunité ici de prier pendant une heure à une heure qui vous convient. Puis de prendre part à un des outils fondamentaux que Jésus donne pour l'avancement du royaume de Dieu. Puis c'est la prière. Qu'est-ce que fait Jésus dans le jardin de Gethsémané avec ses disciples? Prenez l'épée, allez vous battre. Je vais rester en vie, non? T'sais. Il a prié. Puis il les a invités à prier avec lui. Il les a invités à considérer que le plus grand des combats, il se mènerait dans la prière. Puis certainement, il y a place à l'action, il y a place, je veux dire, on en met des projets concrets, je suis là, puis je vous donne un enseignement, puis on met de la coordination en place pour avoir plusieurs personnes qui prient ensemble. T'sais. Ça en prend des projets concrets. Mais il y a aussi place à considérer que partout dans la Bible, partout dans le Nouveau Testament, la prière a un rôle central pour l'avancement du royaume de Dieu. Puis on ne sait pas trop pourquoi, mais Dieu nous donne cet outil-là, puis il dit, si vous le faites, les choses vont avancer. Mais je ne vous expliquerai pas tellement pourquoi des détails. Mais si vous le faites, les choses vont avancer. Êtes-vous prêt à ce que les choses avancent en priant avec nous, toute la région ensemble? Si c'est votre cas, si vous avez des questions, vous venez me voir, ça va me faire plaisir de vous répondre. Le site web, là, il est juste au bas. Il est là aussi. Je vous laisse avec ça, mais j'aimerais évidemment prier avant de terminer. Je vous invite à considérer ça. Allez faire un tour sur le site web. Allez faire un tour pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Allez faire un tour pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Puis, tu sais, je vous laisse avec ça avant de prier. Je vous laisse avant de finir. Tu sais, imaginez-vous à la fin de votre vie, là. T'sais, on a tous des mauvais choix qu'on a pris, on a tous des bons choix qu'on a pris. Il y a toujours des choses que tu dis, devant Dieu, j'ai hâte que de pouvoir me présenter devant lui pour ça, parce que je suis fier d'avoir fait ça pour lui. Je suis fier d'avoir fait tel don sacrificiel, mais tabarouette, il est intervenu, puis il a dirigé ça, ça a été le fun. T'sais. Vous imaginez-vous une vie à intercéder pour un réveil, pouvoir vous présenter devant Dieu puis dire, j'ai tout fait pour te demander un réveil, puis tu as agi. J'ai tout fait pour te demander un réveil, ton intervention, puis tu agis. De vous présenter devant Dieu, là, puis d'avoir pu dire, tu m'as donné un outil, je l'ai pris. Tu m'as donné un outil fondamental pour l'avancement de ton royaume, j'ai pris part. J'ai pris part à fond. On va prier. Seigneur Dieu, je te remercie pour tous tes disciples qui sont ici. Merci pour le privilège qu'on a de pouvoir se réunir. Merci pour cet outil que tu nous donnes, fondamental, qui est la prière pour l'avancement de ton royaume. Merci parce que tu nous donnes ta parole, tu nous donnes des orientations tellement claires, des aspirations tellement fortes puis bonnes auxquelles espérer. On va pouvoir se placer devant toi un jour puis dire, j'ai pris part à l'œuvre que tu as voulu dans ma vie, j'ai pris part à l'œuvre de l'Évangile, j'ai pris part à une vie d'intercession. Seigneur Dieu, je te prie de diriger de nombreuses personnes à saisir cette opportunité-là de prendre part au mouvement 24/7. Puis utilise nos prières limitées, faibles, nos vies non dignes d'approbation devant toi, mais que tu approuves quand même. Utilise tout ça pour l'avancement de ton royaume au Québec, je t'en prie. Amen.